On a la page 28b1,
à la Mishnah, en bas de la page, 28b1, la Mishnah nous dit comme ça. La Mishnah d'aujourd'hui va nous dire à qui nous n'avons pas l'obligation de rendre une trouvaille. Enfin, ça, je trouve quelque chose dans la rue, dans quel cas je n'ai pas l'obligation de le rendre. On va parler en tout cas de certains cas. La Mishnah dit comme ça. Amar et Aveda, velo amar et Simanea. Si je trouve quelque chose, dans la rue, une montre par exemple, et un homme il vient et il me donne la perte. Ça veut dire il me dit voilà, j'ai entendu que vous avez trouvé quelque chose, vous avez trouvé une montre. Mais velo amar et simanea, mais il n'a pas dit les simanim. Il n'a pas dit, il m'a pas donné de signes distinctifs. Il m'a dit oui, j'ai perdu une montre. On verra dans la Gemara après que c'est pas clair. Qu'est-ce que je proclame? Quand je proclame, est-ce que je proclame que j'ai trouvé une montre ou je proclame que j'ai trouvé un objet? Bon. Donc amar et aveda velo amar simanea. Si une personne qui vient me voir me dit « Oui, écoutez, j'ai perdu une montre. » Je dis « Ok, donnez-moi les signes, un signe distinctif. » Il n'a pas de signe distinctif. Lo iten lo, je ne lui donne pas. Peut-être c'était lui le propriétaire. Je dis « Écoutez, je ne sais pas. Essayez de trouver. Peut-être quelqu'un se rappelle les signes. Peut-être votre femme se rappelle. Quelqu'un se rappelle. Mais tant que personne ne se rappelle, je ne peux pas vous rendre la perte. » Ve'aramai. Donc le ramai, ça veut dire quoi? Ça veut dire si c'est une personne qui est soupçonnée d'être un menteur ou d'être un truand. Afalpi shamar et simanea lo itello. Même si il me donne ses simanim, c'est-à-dire même s'il me donne les signes distinctifs, lo itello je ne lui donne pas. Ça veut dire je trouve une montre par terre dans la rue. D'accord? Je fais une annonce. On verra dans la Gemara qu'est-ce que je fais comme annonce. Je dis que j'ai trouvé quoi. Donc je fais une annonce, peu importe quelle annonce. Il y a un voleur qui me voit et me dit voilà, vous avez trouvé une montre de telle marque, elle avait ça, elle avait telle, etc. D'accord? Puisque c'est un ramaï, puisqu'on sait que c'est un truand, lo itello je ne lui rends pas. Alors il faut savoir quand même que le roche, vous verrez dans les notes après, je sais pas même s'il donne les bons simanim. Je ne sais pas s'il ramène dans les notes ici. Mais en tout cas, vous verrez après que selon le roche nous dit que dans quel cas on ne rend pas un truand, c'est uniquement s'il ne lui donne pas un siman mouvhak. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la définition de siman mouvhak qu'on avait appris avant les vacances. Dans les signes distinctifs, il y a plusieurs catégories de signes. Il y a des signes standards. Signe standard, par exemple, je vais lui donner la marque de la montre, etc. Et il y a un signe mouvhak. Un signe mouvhak, ça veut dire un signe pertinent. Par exemple, il va dire, il y avait une rayure à tel endroit. Ça, c'est beaucoup plus que la marque. Ça, c'est un signe que pour connaître ce signe-là, il faut vraiment être le propriétaire. Alors, le roche nous dit que même si on sait qu'on a affaire avec un truand, on sait que c'est un truand, et s'il te donne un siman mouvhak, un signe pertinent, là, t'es obligé de lui rendre. D'accord? Donc, on est d'accord. Chez Neymar, comme c'est écrit, d'où on sait qu'on doit faire cette différence-là entre le truand et celui qui n'est pas truand? Pourquoi je fais cette différence? Pourquoi deux poids, deux mesures? Quand? Chez Neymar, comme c'est écrit, Ad de Roche Achicha Oto. Parce que le verset, il dit, Ad de Roche Achicha Oto, jusqu'à ce que tu devras, donc Ad de Roche Achicha Oto, rechercher ton frère. Alors, vous avez le pasouk. Je ne sais pas si vous le voilà. Vous avez le pasouk, on va passer dans le côté Gemara. Passer dans le côté Gemara, ce côté-là. Et dans le côté gauche de la page, la troisième section, petite section, c'est Torah Or Hashalem. Vous voyez un verset avec des nekoudotes en petit. Quand Torah Or Hashalem, il y a un seul pasouk qui dit comme ça. Donc c'est le pasouk qui parle de la Shabbat Aveda, qui était d'ailleurs dans la paracha cette semaine, c'était la semaine dernière. Ve'im le karov achicha elecha, ve'lo yedato. Donc si maintenant ton frère, donc on dit que quand on trouve quelque chose, il faut le rendre à ton frère. Si maintenant ton frère n'est pas proche de chez toi, c'est-à-dire en d'autres termes, tu n'as pas réussi à trouver le vrai propriétaire. Velo yedato, donc tu ne sais pas qui a perdu cet objet-là. Va safto al torbetera, dans ce cas-là, je devrais garder l'objet chez moi, l'objet trouvé. Ve'aya imecha ad derosh achicha oto. Et je vais devoir le garder ad derosh achicha oto jusqu'à ce que mon frère va le réclamer. Et là, va acheter votre lot, et là, je devrais lui rendre. Alors, la Gemara pose la question, la Gemara explique en vérité d'où elle apprend la Mishnah, parce que la Gemara est une question très simple. Elle dit, mais je comprends pas, il veut rien dire ce verset. Tu me dis que tu devras le garder jusqu'à ce que ton frère va le réclamer. Bah, bien sûr, s'il ne le réclame pas, je vais pas lui donner. En trop. T'aurais dû me dire, tu dois le garder. Et j'ai compris que dès que quelqu'un va me... Tu viens de me dire avant qu'il faut rendre la perte à son propriétaire. Là, tu es en train de me dire, si tu ne sais pas qui est le propriétaire, tu le gardes chez toi. À quoi ça sert ces mots que tu me dis à la fin, tu me dis jusqu'à ce que ton frère va le réclamer. Et de là, la Gemara apprend, et c'est la Mishnah qui nous le dit, qu'en vérité, ad de roche achicha oto, ça veut dire que jusqu'à ce que ton frère le réclame. Ça veut dire quoi, je vais faire le réclame? Écoutez bien comment explique la Mishnah. Ach tidrosh et achicha imu ramay im ramayhu o inu ramay. La Mishnah explique comme ça le pasouk. Elle dit que ça veut dire quoi? Ach tidrosh achicha oto. Ça veut dire que quand ton frère va te réclamer la perte, c'est évident qu'il va te la réclamer, sinon tu ne lui donnes pas. Déroche. Déroche en hébreu, ça veut dire qu'il faut faire des recherches. Vous savez, quand on fait des enquêtes sur les témoins, on devait faire des chakirot et des drichot. Chakirot, c'est des enquêtes. Par exemple, on lui demande deux témoins qui viennent, qui témoignent sur quelque chose. Donc on fait des chakirot. Chakirot, c'est-à-dire on fait des enquêtes, à quelle heure ça s'est passé, quel jour. Et après, on va comparer les témoignages des témoins. Et on a ce qu'on appelle des drichot. Des drichot, ça veut dire... Ça c'est le juge qui va poser des questions comme il veut. C'est pas des questions qui sont citées dans la Mishnah, dans la Gemara. C'est des questions. On va essayer d'oresh en hébreu, ça vient du mot rechercher. Et qu'est-ce que nous dit le pasouk? Ad derosh achicha oto. Que quand tu vas rendre une perte, tu as l'obligation de rechercher est-ce que c'est le vrai propriétaire ou pas. C'est-à-dire que du mot en plus de la Torah, on a appris que derosh, ça veut dire qu'on a l'obligation de rechercher est-ce que la personne qui vient pour rechercher l'objet, est-ce que c'est lui le propriétaire ou pas. C'est une galère en plus.
C'est une galère.
D'accord? Une galère en plus, parce que moi je sais pas à qui j'ai affaire. Donc, ad derosh achicha oto, ad derosh achicha imu ramay o eno ramay. Comment on va expliquer tout ça?
Pas rechercher si c'est le propriétaire.
Non.
C'est rechercher s'il est honnête ou malhonnête.
C'est rechercher si c'est lui qui vient me voir.
Non, parce que par les simanim déjà.
Oui.
Mais
le problème, c'est quoi, hein, justement? C'est que si c'est un ramaï, ça c'est évident qu'il nous faut les simanim.
C'est ça qu'on cherche.
Non, mais justement, c'est évident qu'il nous faut les simanim. De toutes les façons, il nous faut les simanim. Ça, on l'a déjà dit dans le premier pasouk. Alors pourquoi le deuxième pasouk, il te dit...
C'est ça, rechercher le propriétaire.
Très bien.
C'est avec les simanim.
Je répète. Le premier pasouk, il te dit que si tu trouves un objet, tu dois le rendre à son propriétaire. D'accord? Et là-bas, c'est écrit les simanim, tout ce que vous voulez. On l'a déjà appris. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé du chamor, etc. Vous vous rappelez? On avait parlé avec Rentassé les similato. Chaque fois, on avait dit qu'il faut les signes distinctifs sur l'animal ou sur le vêtement, etc. Ça, on sait déjà. Ensuite, il y a un deuxième verset qui vient, qui dit que si je ne trouve pas le propriétaire, par exemple, comment est-ce possible que je ne le trouve pas? Par exemple, parce que peut-être qu'il n'habite pas ici. Donc, je ne l'ai pas trouvé. Qu'est-ce que nous dit le pasouk? Qu'est-ce que nous dit le verset? Et tu dis, va safto el torbetera, tu devrais garder l'objet chez toi. Ad de roche achicha oto, jusqu'à ce que ton frère le réclame. Agmara pose la question. On l'avait appris dans la page 27, justement. Agmara pose la question, elle dit, mais je comprends pas. C'est évident qu'il faut attendre qu'il le réclame. S'il le réclame pas, je vais le distribuer à n'importe qui. Et de là, la Mishnah apprend la chose suivante. Elle dit que ça veut dire quoi? Ad de roche achicha oto. C'est une dracha. Ça nous apprend qu'en vérité, quand la personne va venir, toi tu n'as pas trouvé le propriétaire. Et t'as quelqu'un qui vient te voir et dit, écoutez, je pense que la montre que vous avez trouvée, c'est la mienne. Ad derosh achicha oto, ça veut dire, mis à part le fait que je t'ai demandé dans le premier pasouk de lui demander des signes distinctifs, à part ça, tu dois rechercher est-ce qu'il n'est pas un voleur, un truand. Et si c'est un truand, tu ne peux pas lui rendre. Sauf, comme le Roche a dit, s'il te donne des signes pertinents. Et si c'est pas un signe pertinent, puisque c'est un truand, on peut pas être sûr que c'est lui le vrai propriétaire, donc dans ce cas-là, je vais participer à un vol.
Ouais, donc c'est une recherche sur l'identité du...
Oui, ça va, parce que c'est pas un truand.
Ouais, c'est ça.
D'accord. Alors comment, ça on verra après aussi, comment je fais, imaginez-vous que quelqu'un il se présente chez vous, comment vous faites une recherche si c'est pas un truand? D'accord. Alors d'abord, on peut imaginer qu'il faut demander des informations autour de soi, mais on peut imaginer aussi que j'essaye de faire ma propre enquête. C'est-à-dire que je vais lui mettre les bâtons dans les roues. Si je me doute que le gars il est pas clean, je vais mettre les bâtons dans les roues pour voir est-ce que vraiment c'est son objet. J'ai le droit de le faire, non seulement j'ai le droit de le faire, je dois le faire. C'est ce que nous dit la Mishnah. Bon, maintenant on passe tout de suite à la Gemara. Gemara nous dit comme ça, Itmar s'enseignait. D'accord. Bon, il y a beaucoup de notes, il y a beaucoup de notes, etc. Bezrat Hashem, on le verra dans la Chazara. Itmar s'enseignait. Rav Yehuda Amar, donc une machloquette entre des Amoraïm. Les Amoraïm, c'est les maîtres de la Gemara. Rav Yehuda a dit, Aveta Machiz. Qu'est-ce qu'il faut proclamer? Et ça, en vérité, c'est un lien direct avec notre Mishnah, comme on va voir tout de suite. On doit proclamer la perte. Ça veut dire que si, par exemple, je trouve un talit, qu'est-ce que je proclame? Donc, je trouve un talit à la choule ici, je trouve un talit dehors. Qu'est-ce que je veux proclamer? Je veux proclamer que j'ai trouvé un objet. Je dis pas, j'ai trouvé un talit. Bon. Alors, Rav Nachman Amar, et Rav Nachman a dit, Glima Machiz, qu'est-ce que je proclame? Je proclame pas que j'ai trouvé un objet, donc je proclame pas Aveta. Aveta en hébreu, ça veut dire une perte. Rav Yuda a dit, je proclame une perte, c'est-à-dire j'ai trouvé quelque chose. Rav Nachman a dit, Glima Machiz, qu'est-ce que je proclame? Je proclame Glima, un vêtement. Ça veut dire que je dis, j'ai trouvé un talit. Et après, ce sera à la personne de me donner des simanis, de me donner des signes distinctifs. D'accord? Alors le Ritba explique sur ça, il dit qu'en vérité, la machloquette qui vient ici, c'est uniquement une fois que, comme on verra après, il y a eu une période dans laquelle les Chachamim se sont rendus compte qu'il y a eu beaucoup de ramaïm, il y a eu beaucoup de truands dans le peuple juif. D'accord ? Il y a eu une période apparemment où tout le monde était honnête, il y a eu une période dans laquelle il y a eu de plus en plus de truands. Donc les Chachamim ont été obligés de rajouter des lois à cause de ça. Et le Ritba explique que la machloquette qu'on a ici, est-ce qu'on reste imprécis, d'accord ? Ou bien est-ce qu'on peut préciser qu'on a trouvé un vêtement, sans trop donner de détails? C'est une machloquette qui est intervenue après qu'on a eu beaucoup de truands dans le peuple juif. Donc, on a une machloquette ici, entre Rav Yehuda et Rav Nachman. Ils vont expliquer tout de suite leur raison. D'accord? Rav Yehuda Amar avait Tamachiz. Rav Yehuda a dit qu'on ne proclame pas qu'on a trouvé un vêtement, mais on proclame qu'on a trouvé une perte. Pourquoi? Et Amar Glima Machiz. Parce que si tu me dis qu'on proclame un vêtement, je dis j'ai trouvé un talit, dans ce cas-là, Chachinan les ramailles. On peut craindre les ramailles à un truand, à un voleur. D'accord? C'est normal. Parce que, puisque tu me dis qu'il y a des truands dans le peuple juif, il y en a beaucoup. D'accord? Alors peut-être, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer d'imaginer la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Peut-être que le truand, il entend quelqu'un qui dit à ses voisins, il dit écoutez, j'ai perdu mon talit. Donc il sait que cette personne a perdu un talit. De l'autre côté, il entend une autre personne qui dit « J'ai trouvé un talit ». Quand lui, puisqu'il sait qui a perdu le talit, il va aller voir l'autre, il va dire « Voilà, le talit avait tel simanim, il y avait des signes dessus ». Alors bien sûr, si on parle d'un signe pertinent, par exemple, c'est quoi un signe pertinent sur un talit? Monsieur Guigny, vous avez un exemple d'un signe pertinent sur un talit?
Une inscription.
Non, une inscription c'est visible. Une inscription qui n'est pas visible. Alors.
Il y a par exemple une tache.
Une tache, très bien. Ça, c'est l'exemple que la Gemara avait donné avant. D'accord? On dit que tout le monde reconnaît son talit par une tache. Il y en a même qui reconnaissent à l'odeur.
Absolument.
Un aspect, Julien. On peut reconnaître à l'odeur?
Oui.
Non.
Mais bon, on va dire que on reconnaît surtout avec les taches. D'accord? Donc, regardez le cas de figure qui nous dit Rav Yehuda. Rav Nachman n'est pas d'accord avec ça. Hein, mais Rav Yehuda nous dit comme ça. Le voleur, enfin le truand, qui peut être un voisin à nous. D'accord? Il m'entend dire que j'ai perdu mon talit. Donc il sait que Mendy Assouline a perdu son talit. D'accord? Il sait à peu près les simanim du talit de Mendy Assouline. Il sait que Mendy Assouline, certainement, il a un talit de telle taille, et un talit rabat, etc. Il ne connaît pas les signes pertinents, mais il connaît les signes. De l'autre côté, ce truand se balade dans la rue, ou bien il vient à la synagogue, et il voit une annonce, trouver talit. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'il entend ça, il va aller voir, il va dire, oui, c'est moi qui ai perdu le talit. Oui, donnez-moi les simanim. Ben voilà, c'est un talit rabat, un talit de telle taille. Parce qu'un vieux d'œil m'a vu, il sait quelle taille j'ai à peu près. Donc, c'est pour ça qu'un vieux d'œil dit, puisqu'on craint les ramailles qui créent un truand, donc je ne proclame pas que j'ai perdu un talit. Je ne proclame pas que j'ai trouvé un talit. Je proclamais que j'ai trouvé un objet. Ah, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord? Là, c'est plus compliqué. Parce que là, il y a plein de personnes qui proclament qu'ils ont perdu un objet. Donc le truand, il va pas aller voir tout le monde et leur dire, écoutez, c'est moi qui ai trouvé, c'est mon objet. Donc là, c'est plus compliqué. C'est pour ça que Rav Yehuda nous dit, c'est-à-dire, imaginez-vous que je mettrais une annonce ici sur le panneau d'affichage, je dis, j'ai trouvé un objet dans la synagogue. Allez, vas-y, maintenant je vais avoir 20 appels, d'accord? Est-ce que peut-être l'objet que vous avez trouvé, c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Ça, c'est l'avis de Rav Yehuda. Bon, je vous rassure, la halakha n'est pas comme lui, hein, parce que sinon, on n'en finit plus. Rav Nachman Amar, Glima Machiz, Rav Nachman a dit que même une fois qu'il y a beaucoup de truands, on ne proclame pas qu'on a trouvé une perte, mais on proclame qu'on a trouvé glima, ça veut dire un vêtement. Pourquoi? Les ramaï lo chashinan, il dit, moi je crains pas que toute une histoire de brigand. Pourquoi? Des imken en la davarsof. Parce que sinon on n'en finit plus. Sinon on n'en finit plus, ça veut dire quoi on n'en finit plus? Comme les commentaires expliquent, ça veut dire que si tu rentres dans la tête du truand, d'accord, le truand, il sera capable un jour aussi de, même si tu annonces seulement que tu as trouvé une perte, il sera capable d'aller chez chaque personne qui annonce qu'il a trouvé quelque chose et lui dire c'est le mien. Donc on n'en finit plus. D'accord? Parce que si tu parles des risques que le brigand est capable de prendre, on n'en finit plus. Donc puisqu'on n'en finit plus, moi je considère que on proclame, je proclame que j'ai perdu, que j'ai trouvé, pardon, un talit, et ben si Dieu veut, j'espère que celui qui viendra me voir, ce sera pas un voleur. Bon. Alors la Gemara maintenant va poser une question. Va poser une question sur Rav Nachman avec notre Mishnah. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'avait dit notre Mishnah? Nan, c'est enseigné dans notre Mishnah. Amar et Aaveda, velo Amar et Simanea. Qu'est-ce qu'elle a dit notre Mishnah? Notre Mishnah a dit, si une personne a dit le nom de la, a dit la perte, mais il n'a pas dit c'est Simanim. Arezé lo itenlo, dans ce cas-là, tu ne lui donnes pas. Qu'est-ce qu'a dit Rav Nachman? Rappelez-vous. Rav Nachman a dit qu'on proclame quoi? Je répète. Il y avait une marque entre Rav Yehuda et Rav Nachman. Rav Yehuda a dit que je proclame que j'ai trouvé un objet. Et Rav Nachman a dit que je proclame le vêtement. Très bien. Si on suit l'avis de Rav Nachman qui dit que je proclame le vêtement, on va relire notre Mishnah. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Amar et Aveda, Avelo, Amar et Simanea. Je trouve un objet, je proclame. Donc qu'est-ce que je proclame, d'après Rav Nachman?
Le vêtement.
Donc je proclame, je vais me mettre un panneau d'affichage, j'ai trouvé un talit. Et il y a une personne qui vient me voir. Amar et Aveda. Il me dit la perte, ça veut dire il me dit oui monsieur, j'ai perdu un talit, velo amar et simanea, et il m'a pas donné ce simanim. Bah, c'est évident que tu le rends pas, il t'a rien dit le gars.
Oui, c'est pas laissé en plus.
J'avais déjà écrit sur le panneau que j'ai trouvé un talit. Donc il y a un problème pour Rav Nachman. Vous comprenez le problème?
Ouais.
C'est pas logique. C'est évident. Un les mots. Tnan, c'est enseigné dans la Mishnah. Amar et aveda, velo amar et simanea, areze lo itenlo. Si la personne m'a donné le nom de la perte, mais il m'a pas dit, enfin il m'a dit donc qu'est-ce que il m'a dit par exemple que voilà monsieur j'ai perdu un talit, mais il m'a pas dit le simanim, tu ne le rends pas. Gemara a dit i amrad bishlema, si tu vas me dire comme la vie de Rabbi Yehuda, shavet tamachis, que je proclame la perte, c'est-à-dire je dis j'ai trouvé un objet. Là dans ce cas-là, hakamashmalana, je comprends, la Mishnah nous apprend quelque chose. Shafalgav de amar glima. Et sur le panneau d'affichage, j'ai écrit que j'ai trouvé un objet, j'ai peut-être trouvé un objet. Et il y a quelqu'un qui va venir me voir, il va me donner déjà un signe, il va me dire oui, c'est un talit que vous avez trouvé, donc c'est déjà quelque chose. Là, la Mishnah viendrait vous apprendre quelque chose. Que même s'il a dit que j'ai trouvé un talit, donc il est déjà sur la bonne piste, sur la bonne voie, mais puisqu'il n'a pas dit Kilo Amar Simanim, puisqu'il n'a pas dit les Simanim, l'homme Adrien, il n'en lui rend pas. Là, je comprends, il y a un chidouche, il y a une nouveauté, tu m'as pris quelque chose. Mais si tu me dis comme Rav Nachman, et là, Iamrad Glima Machiz. Si tu me dis que on ne proclame pas un objet, on proclame le vêtement. C'est-à-dire sur le panneau d'affichage, qu'est-ce que j'écris? Je vais écrire que j'ai trouvé un vêtement. D'accord?
Ça, c'est la nature de l'objet qui a été trouvé.
Voilà, la nature.
Et ça sous-entend qu'après il faudra donner des images.
Bien sûr. Mais dans ce cas-là, quel est le chidouche de la Mishnah? D'accord? Dans les mots. Je finis juste dans les mots, après j'explique encore une fois. D'accord? Iamrat glima machri. Si tu me dis que je proclame le vêtement. Amar iu glima. Moi je dis sur le panneau d'affichage que j'ai trouvé un vêtement. Ve'amar iu glima. Et il y a une personne qui me dit oui monsieur j'ai perdu un talit. D'accord? Srichal memar. Kilo amar simanim le madrinane. Est-ce que tu as besoin de me dire que s'il n'a pas de simanim tu ne rends pas? C'est évident. Vous comprenez ma question? C'est comme, regardez, je vous donne un exemple. Ouais, je vous donne un exemple peut-être avec une autre chose. Imaginez-vous que je trouve une montre ici à la synagogue. Je trouve une montre. D'accord? Je vais mettre sur le panneau d'affichage. J'ai trouvé une montre. Quelqu'un qui vient me voir et dit monsieur, j'ai perdu une montre. Ah oui, merci, mais c'est écrit. Il m'appelle sur mon téléphone, il dit j'ai perdu une montre. Il ne donne pas les simanim. Est-ce que j'ai besoin de la Mishnah pour me dire qu'il m'a rien dit le gars? C'est évident, tout le monde va m'appeler. La femme de ménage, elle va m'appeler. Elle va me dire oui, j'ai entendu que vous avez trouvé une montre, j'ai perdu une montre. Bah ça veut rien dire. C'est sûr que tu rends pas. Si tu me dis comme Rav Yehuda, que qu'est-ce que je proclame? Je proclame un objet. Là, celui qui va m'appeler sur mon téléphone portable, qui va me dire oui, écoutez. Je sais pas si c'est l'objet que vous avez trouvé, mais moi j'ai perdu une montre. Là il m'a dit quelque chose. Là c'est pour ça que la Mishnah viendrait te dire que même si il est sur la bonne voie, mais bon, il t'a pas donné les simanim, tu rends pas. Et si tu me dis que de toutes les façons, je donne l'objet que j'ai trouvé. Dans ce cas-là, la Mishnah vient nous apprendre. Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre la Mishnah?
Il y a une suspicion quand même de réalité. Il y a beaucoup de gens qui ont des objets, qui ne connaissent pas les marques. Moi,
très
ça
bien.
M'arrive souvent. J'ai des trucs, je n'ai jamais fait attention.
Bonne question. Mais ça ne change pas que la Mishnah ne nous a rien appris.
Oui.
Ah oui, parce que dans ce cas-là, moi j'ai écrit que j'ai pu trouver une montre. Quelqu'un vient me dire, monsieur, j'ai perdu une montre.
Non, l'objet.
Ah, alors, si on dit l'objet, ça irait.
La montre, c'est...
D'accord.
C'est
clair, d'accord.
C'est clair. C'est alors, l'objet.
Si on dit que c'est l'objet, vous avez raison. Seulement, c'est la Torah qui a dit qu'il faut donner des simanim. Parce qu'il faut être sûr que c'est le bon propriétaire.
Mais imagine que la personne ne rentre pas et que la personne en face, elle est réglo, elle est honnête et c'est son objet.
Pour rien faire, on verra après. La Gemara va donner des exemples comment on fait les enquêtes pour savoir si c'est un brigand ou pas. On peut rien faire. Parce qu'il faut être sûr qu'on rend au bon propriétaire. Ouais, comme ça.
Mais on risque de ne pas le donner.
On risque de ne pas le donner, oui. C'est pas grave. On le garde, comme la Gemara dira après, dans certains cas où on le garde jusqu'à quel Yahouzabi va venir.
D'accord.
Ou jusqu'à ce comment.
Mais il risque d'avoir des bagarres.
Pourquoi?
Bah, si lui, il sait que c'est à lui. Il sait à lui.
D'où il sait? Il a pas vu.
Il n'y a que lui qui vient réclamer une montre. Il n'y en a pas un deuxième.
Tant pis.
Il n'y a que lui.
Il n'y a pas de simulant, on peut rien faire. C'est comme ça. Faut être sûr que c'est le bon propriétaire. En général, on a toujours des simanimes sur un objet. C'est rare qu'on n'a pas des simanimes. Je sais pas, moi, surtout sur nos vêtements, sur nos objets, sur nos... Voilà, vous me donnez... Sur mon portable, j'ai un siman. Je sais très bien qu'il a une trace ici, qu'il a une trace ici, je me rappelle. Il y a des simanimes, mais on a des... C'est les habitudes de la vie. Bon. Alors. Donc, question sur... On est resté sur une question sur Rav Nachman. Qu'est-ce qu'a dit Rav Nachman? Rav Nachman a dit qu'on proclame...
Un vêtement.
Si tu me dis qu'on proclame un vêtement, ta Mishnah ne sert à rien. La Mishnah a dit oui. Si, il a dit le vêtement, mais il n'a pas donné les simanim. Merci, le vêtement, je savais déjà, puisque j'ai proclamé le vêtement. Donc, a priori, la Mishnah ne veut rien dire. Répond la Gemara. Amar Rav Safra a répondu. Leolam glima machiz. Je vais te dire en vérité que la Mishnah pense comme Rav Nachman, que qu'est-ce qu'on proclame? On ne proclame pas l'objet, mais on proclame le vêtement. On proclame la nature de l'objet. Seulement quoi? Qu'est-ce que dit la Mishnah? De quoi elle parle la Mishnah? Amar iou glima. Donc si on parle d'un cas comme ça, écoutez bien. Si il y en a un qui dit j'ai trouvé un objet, un vêtement, un talit, va amar iou simanim. D'accord? Ou maï, lo amar simanea, amar simanim ou vakim dida. D'accord. Donc il dit comme ça. Lo amar simanim ou vakim dida. Elle dit comme ça. En fait, ça veut dire en vérité la Mishnah, on va déformer un petit peu la Mishnah, d'accord? Comme on a l'habitude dans la Gemara. Gemara dit comme ça. En vérité, ici, on pense que la Mishnah pense comme Rav Nachman. Qu'est-ce qu'on proclame? On proclame le vêtement, on proclame l'objet. De quoi elle parle la Mishnah? La Mishnah, elle parle que moi, j'ai mis une annonce dans laquelle je dis j'ai trouvé un talit. D'accord? Et l'autre, il vient me voir et il me donne les simanim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit lo amar et simanea? Lo amar et simanea, ça veut dire que il n'a pas donné un siman mouvhak. D'accord? Il n'a pas donné un siman, un bon siman. Par exemple. Ça, c'est la Mishnah déforme un peu. L'homme a simané, là, on va rejoindre un peu ce que vous avez dit, monsieur Guéniche. Ça veut dire qu'il n'a pas donné un signe assez bon. Par exemple, je reprends mon exemple de Talit. D'accord? En vérité, si on suit l'Agmara ici, on a trois catégories de simanim. On a une première catégorie de simanim, c'est un siman mouvhak, c'est un siman pertinent. Par exemple, une tâche. La personne sait qu'il y a une tâche, ou un trait, ou un défaut de fabrication, personne ne remarque. On a un deuxième type de siman, c'est un bon siman. Par exemple, il va donner la marque du talit, ou un siman qui est quand même que normalement le propriétaire connaît. On a un troisième type de siman, c'est un siman qui est général. Par exemple, il va te dire, oui, c'est un talit qui était de telle taille. C'est un siman qui est trop général. Ou bien il va te dire, oui, le talit, c'est un talit large. Ou un talit...
Avec des bandes noires.
D'accord? Ouais, avec des bandes noires. C'est un siman qui est trop général. Et la Gemara a dit qu'en vérité, Rav Safra explique qu'en vérité, on peut dire que quand la Mishnah nous a dit que Velo Amar et Simanea, quand la Mishnah nous a dit que la personne n'a pas donné les Simanim, que là, dans ce cas-là, on a dit, bah, c'est évident, si, de toutes les façons, j'ai annoncé que j'ai trouvé un talit, et avec qui me dit, oui, monsieur, vous avez trouvé un talit. Quand on dit qu'il n'a pas donné les Simanim, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas donné aucun Siman. Ça veut dire qu'il a donné un Siman, mais un Siman qui n'était pas assez descriptif, d'accord, assez pertinent. Et là, serait le chidouche de la Mishnah, pour te dire, que même si il a commencé quand même à donner un siman, il a donné quelque chose. Puisqu'il n'a pas donné le bon siman, un siman qui est assez pertinent, ça ne marchera pas. Donc on peut trouver une porte de sortie pour Rav Nachman aussi. Donc on reste toujours dans la machloket entre Rav Nachman et Rav Yehuda. D'accord? Rav Nachman et Rav Yehuda. Rav Nachman, je commence par Rav Yehuda comme la Gemara. Rav Yehuda a dit que quand on proclame qu'on a trouvé un objet. Et Rav Nachman a dit que on proclame un talit. D'accord? Dans les faits, aujourd'hui, on proclame comme la deuxième manière. On verra. De toute façon, la Gemara tout de suite après, elle va parler de ça tout de suite.
Un vêtement.
Mmh.
On va donner un siman mouvak.
Ça change que le brigand, D'accord, le truand, il a moins de chances d'arriver vers toi.
Avec Rabbi Yehuda, il a moins de chances.
Ah, beaucoup moins de chances.
Alors pourquoi on garde
non, pas avec Rabbi Yehuda.
Avec
Rabbi Yehuda, oui, tu as raison.
Ouais. Pourquoi on garde pas comme ça? Alors, c'est quoi le problème?
Parce que Rav Nachman a dit, si c'est comme ça, en adversaf, c'est comme ça, on n'en finit plus.
Peut-être que non, parce que c'est le contraire.
On n'en finit plus.
Ils vont moins essayer, puisque
il y a plusieurs manières de comprendre que ça veut dire on n'en finit plus. Ou bien on n'en finit plus, ça veut dire qu'on n'en finit plus, que les truands iront toujours plus loin.
D'accord.
Ou bien ça veut dire qu'on n'en finit plus, ça veut dire que le propriétaire ne retrouvera jamais sa perte. Parce qu'imaginez-vous que j'ai perdu un talit. Et que je vais devoir m'amuser à voir toutes les annonces dans lesquelles c'est écrit quelqu'un a trouvé quelque chose. On n'en finit plus. D'accord. Donc on peut voir plusieurs manières que ça veut dire on n'en finit plus. On comprend que c'est un peu exagéré. Voilà. Donc c'est une marche enquête. La Gemara continue. Elle dit que. Qu'est-ce qu'on a dit dans la deuxième partie de la Mishnah? On a dit que Vehar Ramay, le brigand. En vérité, bon, je ne sais pas s'il vous dira dans les notes ici, mais dans la Khazara, alors je vais vous laisser trouver tout seul. En vérité, Rav Safra aurait pu répondre une autre réponse au Rav Nachman. Une réponse beaucoup plus simple. Mais bon, je vais vous la trouver tout seul. Rav Safra vient de répondre une réponse au Rav Nachman. Il vient d'expliquer comment notre Mishnah pouvait aller selon Rav Nachman aussi. Il aurait pu répondre une réponse beaucoup plus simple.
Pour la Mishnah, comment est-ce que...
Par rapport à la Mishnah, pour expliquer la Mishnah. Bon, on verra, vous verrez dans la Khazara. Ve'aramai. On reprend la Mishnah. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Ve'aramai, afalpi shamar et simanea, arezel lo itenlo. On a dit que quand c'est un truand, même si... Comment il traduit Ramay ici? Comment il traduit Ramay, Yacob?
Malhonnête.
Bon, malhonnête. Afalpi shamar et simanea, truand. Ça fait plus mafia comme ça.
Truand, hein? C'est vraiment... c'est pas pareil, truand, quand même. Truand, c'est quelqu'un qui peut te tuer, qui peut de toi.
Ramaout, ou... Ramaout en hébreu, ça veut dire c'est les gens qui font les arnaques, quoi.
Mais ça veut pas dire rusé, Ramay.
Non, là, c'est Arum. Ouais. Ah. Ramay, c'est quelqu'un qui fait Ramaout, Ramaout, c'est les gens qui sont tordus, quoi, qui sont tordus dans les affaires, qui sont tordus.
Le truand, c'est plus que tordu. Le truand, il peut te tuer,
il peut
te...
Ouais, il a des règles que tu n'as pas. Tu n'as pas l'homme moyen.
Voilà.
Oui. Non, c'est truand, c'est...
Bon.
Malhonnête, ça irait mieux.
Malhonnête. D'accord. Donc, vers Aramaï, Afalpi Shamar et Simanea, Arezel Loitenlo. On a dit qu'on est dans la Mishnah que celui qui est malhonnête, même s'il a donné les simanim, tant que ce n'est pas des simanim pertinents, Arezel Loitenlo, on ne lui donne pas. Tadou Rabban, Anachami m'a enseigné, Barishona, au début, Kol Mishavda Aveda, toute personne qui avait perdu quelque chose, Aya Notel Simanim, Benotla. Il lui suffisait de donner des simanim, pas pertinents, des simanim normaux, Venotla, et la reprenait. Donc là, la Gemara nous raconte ce qui s'est passé, pourquoi la Mishnah a fait sa différence. Mishirabu Aramaïn, dès qu'on a eu beaucoup de Ramaïm, donc dès qu'on a eu beaucoup de truands, dans ce cas-là, Itkinu, on a instauré, Sheyehu Omrimlo, qu'on lui disait, Tse ve'ave edim zelav Ramaï at vetol. Va nous amener des témoins que tu n'es pas une personne malhonnête, c'est-à-dire deux personnes qui vont témoigner que tu n'es pas malhonnête, vetol, et là tu pourras prendre la perte. D'accord. Bon, alors on avait expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fini à la fin du mois de juillet, on avait fini sur ça. Hein. On avait dit que aujourd'hui en général, quand on trouve quelque chose, ce qu'on fait, c'est qu'on l'annonce dans les synagogues et dans le Beit HaMidrash. On met dans un panneau d'affichage, d'accord. Mais tout ça à condition que il n'y a pas. Alors aujourd'hui, on n'a pas ce genre de loi, mais à l'époque, ils avaient une loi que toute perte devait être donnée au roi. Et là, dans ce cas-là, même à la synagogue, on ne peut pas annoncer, parce qu'il y a toujours des gens qui vont aller rapporter. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On avait dit que dans ce cas-là, si on sait que ça va être rapporté, on l'annonce qu'aux voisins de la perte. D'ailleurs, je veux voir les voisins, est-ce que vous avez perdu quelque chose? Aujourd'hui, on n'a pas ce problème, donc puisqu'aujourd'hui, on n'a pas ce problème, on va annoncer dans les synagogues. Alors, dans les synagogues, c'est encore une fois, si on est sûr que dans la synagogue, en général, les gens qui viennent prier dans la synagogue, et dans le Beit HaMidrash, dans la maison d'études, c'est des gens honnêtes. Mais si on sait que c'est une synagogue dans laquelle il y a beaucoup de gens malhonnêtes qui tournent, c'est un problème. C'est ce que nous dit la Mishnah ici. Car la Mishnah nous dit que quand c'est un endroit dans lequel on sait qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes, ben on a dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le propriétaire doit donner, enfin celui qui pense être le propriétaire, doit amener une preuve qui n'est pas un truand. Par exemple, imaginez-vous, j'ai perdu un talit, d'accord? Yaakov, il trouve le talit, il met une annonce, d'accord, dans laquelle il dit j'ai trouvé un talit. Moi, je viens le voir, je lui dis j'ai perdu un talit. Yaakov va me dire amène des témoins que tu n'es pas malhonnête. Donc je vais amener deux témoins qui vont témoigner que je suis quelqu'un de bien. Sinon je rends pas. D'accord. Bon, après, on n'en finit plus si vous allez me dire ça, c'est deux témoins, ils vont être deux mèches à le bois. Bon, en général on fait confiance. Ils ont une respect quelque chose. Et la Gemara raconte une histoire pour nous montrer, d'accord, pour nous montrer qu'on a pris vraiment cette halakha au sérieux, qui a des avoua des Rav Papa. Il y a eu une histoire comme ça avec le père de Rav Papa. Qu'est-ce qui s'est passé avec le père de Rav Papa? Ichas le chamra v'ashkechua. Donc il a perdu un âne. Il a perdu un âne et on l'a trouvé. Quelqu'un l'a retrouvé. Donc, bien entendu, il a voulu le récupérer avec des simanim. Ah, t'as les kamé des Rabba Baravuna. Il est venu devant Rabba Baravuna. Amar les Rabba Baravuna. Donc Rabba Baravuna lui a dit Zil aite saade de lavramai at.
Quand même.
Va m'amener des témoins. D'accord? Le père de Rav Papa. Hein. Va m'amener des témoins que. Non, c'est pas Rav Papa, mais quand même. Non, c'est... Ouais. Va m'amener des témoins que tu n'es pas. De lavramai at, que tu n'es pas malhonnête. Vetol. Et là, tu pourras reprendre l'âne. Azal, il est parti, a été saadé. Il est parti amener des témoins. Amar Léou, regardez bien, écoutez bien ce que la question qu'il va leur poser. Amar Léou, Rabba Baravuna a posé la question aux témoins. Yad idunbe de Ramayou, est-ce que vous savez si c'est un brigand? D'accord? Verm Roulé, il lui a répondu, si c'est donc quelqu'un de malhonnête. Verm Roulé, il lui a répondu, in, oui.
Waouh.
Alors, parce qu'en vérité, quand on explique ce commentaire, ils avaient mal compris la question. Normalement, la question qu'on pose, c'est est-ce que vous le connaissez? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Donc, oui, ils ont répondu oui. D'accord. Là, il a demandé, il a dit est-ce que vous savez s'il est malhonnête? Et qu'est-ce qu'il répond? Il répond oui. À Marley ou? Alors, tout de suite, le père de Rav Papa, il dit au témoin, il dit mais Anna, Rama, Anna, moi, je suis malhonnête? À me rouler, ils lui ont dit non. Anna, la vraie Kamrina, nous, on vient de dire que tu n'es pas un brigand. Le problème qu'on a ici, c'est quoi, hein?
C'est une interprétation de forme.
Alors, le problème, c'est quel est le problème qui s'est levé? Le problème qui s'est levé, c'est que la Gemara, donc Ktuvat, elle nous dit, par rapport à un témoignage, que Kevan Sheigid Shuv Enochozaru Magid. Que, une fois que les témoins ont témoigné, ils ne peuvent plus donner un autre témoignage. Vous comprenez le problème? Donc là, les témoins ont dit quelque chose, on était là, au tribunal, on a entendu. Non, apparemment, après, il vient, il dit, il ramène d'autres témoins.
On n'a pas dit qu'on était au tribunal.
Si, Rabba Baravuna. Rabba Baravuna, donc il les a amenés chez Rabba Baravuna.
Pourquoi tu dis au tribunal?
Bah, c'est Rabba Baravuna, c'était un Beit Din.
Ah, je savais pas.
Et pourquoi c'est pas Rabba Baravuna qui a trouvé? Ils ont amené chez Rabba Baravuna.
Ah, d'accord. Ah, bah, c'était pas évident.
Bon.
Faut mieux le préciser.
Ouais. Alors, le... Comment on appelle ça?
Comment oui. Directement dans l'incident.
Alors, le Ritba, il pose la question suivante. Le Ritba pose la question suivante. Il dit qu'a priori, dans la Gemara que tu votes, on nous dit que des témoins peuvent revenir sur leurs paroles si c'est Torque des Dibourg. Ça veut dire si c'est Torque des Dibourg, vous savez, c'est un principe aussi qu'on a dans la Amida, ça veut dire c'est le temps, 3 secondes environ, 2 secondes et demie, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi.
Comme pour les brachot.
Comme pour le Kalakadosh, etc. Vous savez, c'est comme si vous dites, comme dans les brachot. Quand on se trompe dans les brachot, quand il faut rajouter Kalakadosh, etc., on considère que tant qu'il n'y a pas eu un laps de temps de 3 secondes qui est passé, on peut revenir sur nos paroles. Donc a priori, le Ritba pose la question, il dit mais a priori ça s'est passé en 2-3 secondes là. Donc pourquoi on dit pas que. Pourquoi on dit pas que de toutes les façons c'était bon? Pourquoi la Gemara dit pas qu'il n'y a pas de problème? Et le Ritba répond la chose suivante. Il dit que ce principe-là, que des témoins peuvent revenir sur leur parole quand on est donc dans les 2-3 secondes qui suivent, 2 secondes et demie pour être précis, c'est seulement dans un cas où les témoins reviennent sur leur parole d'eux-mêmes. Par exemple, le témoin il dit quelqu'un de malhonnête, et tout de suite le témoin se reprend. Mais si le témoin se reprend suite à une intervention externe,
d'accord.
Dans ce cas-là, ça vaut rien.
Alors, ça ne devrait pas marcher alors.
Donc, d'où le problème de Rabba Baravuna. Ravuna s'est posé un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Il a compris qu'il y a eu un problème. Mais il était bloqué. Ouais. Pourquoi? Puisque les témoins ont changé, donc les témoins ont modifié leur témoignage, mais suite à une intervention externe. Ouais. Donc, il était bloqué. Et regardez la porte de sortie qu'il a trouvé Rabba Baravuna. Amar Rabba Baravuna a dit, Mistabra, que c'est logique, l'homme maïté inish rovta lenafshe, que certainement, qu'un homme ne s'amène pas, donc comment il traduit rovta, il ne s'amène pas quelqu'un à son détriment, contre lui. Ça veut dire comme ça. Rabba Baravuna, il a une logique, il a lu la logique, il a dit, qui a amené ces témoins-là? Qui c'est qui les a amenés ces témoins? C'est le père de Rav Papa.
Oui.
D'accord? C'est pas logique qu'il va amener des gens qui vont se retourner contre lui.
Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il va
donc, il a trouvé ça. T'as compris? Et lui, il a trouvé la logique suivante. D'accord? Il a trouvé la logique suivante. C'est une logique qui est très forte. D'accord?
C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'amène un témoin de
même. Il a trouvé la logique suivante, c'est que ici, puisqu'on voit ici vraiment que les témoins, ils ont mal compris la question, bien que normalement on a un principe que les témoins ne peuvent pas revenir sur leur parole, mais puisque d'un autre côté, on se dit que certaines... Puisque ici, qui c'est qui a amené les témoins? C'est pas le Beit Din qui est parti chercher les témoins. C'est pas une enquête du Beit Din. C'est le père de Rapapa, c'est celui qui la personne en question qui a amené les témoins. Donc certainement qu'il n'aurait pas amené des témoins qui vont les entendre contre lui. C'est pas logique, c'est pas normal. Il est parti les voir, ces témoins. Qu'est-ce qu'il leur a dit, ces témoins? Il leur a dit, venez témoigner pour moi. D'accord? On lui demande de le faire.
Si tu me dis que ça, c'est pas logique, moi je te dis que ce qui est pas logique, c'est quelqu'un qui se trompe dans son témoignage parce qu'il a mal compris la question ou parce qu'il est fatigué, etc. C'est pas logique qu'il puisse pas revenir sur ce qu'il a dit.
Non, ça c'est normal, ça. C'est pas la gmara que tout va. D'abord, elle apprend ça d'un pastouk, en plus c'est logique. Ah oui, parce que
attends, tu peux te tromper.
Témoignage, c'est une forme
de la question. Sous l'émotion.
Tu vas chercher un autre témoin.
Non, mais ce qui est...
Et là, c'est la même chose. Même chez deux autres.
Tout à l'heure est encore plus judicieux. Quelle est la véracité de quelqu'un? On lui dit, va me chercher deux témoins. Il est clair qu'il ne va pas prendre deux mecs qui vont l'assommer.
Oui, il va prendre deux escrocs.
Deux gars qui vont parler pour lui.
Mais nous, on a une présomption de cache-route.
Oui, mais on parle d'une
si on sait, attendez, une seconde. L'erreur qu'on fait ici, c'est que vous imaginez que la personne qu'on a en face de nous est malhonnête.
Non, je n'imagine rien. On m'a dit que c'est une période où il y avait beaucoup de malhonnêteté.
Mais la personne qui est devant nous, on ne sait pas si elle est malhonnête.
On ne peut pas la juger.
Très bien. Donc, puisqu'on ne peut pas la juger, on va lui dire que toi, en tant que personne, tu ne nous suffis pas. Il nous faut deux autres personnes qui vont nous témoigner que tu n'es pas malhonnête, et là, on peut te rendre. Et là, ce qu'on a beaucoup de présomptions. D'abord, j'ai la présomption que moi, certainement, je suis cachère. En plus, on a la présomption que deux témoins, certainement, ils sont cachères, donc c'est bon. Mais c'est vrai que ce qui est étonnant ici, ce qui est un peu spécial, c'est que c'est pas le Bedin qui va aller chercher les témoins, mais c'est moi qui vais chercher les témoins. C'est pour ça que Rabba Baravuna a dit, il s'est servi de cette logique-là pour dire que certainement, une personne n'aurait pas amené des témoins contre ceux qui vont se retourner contre lui. Donc même si les témoins apparemment, il y a eu un problème, ils ont mal compris la question, d'accord, apparemment ils voulaient tout de suite répondre. Attendez, c'est bon, d'accord.
Non, c'est clair.
Puis ce principe, il vole en éclats tout d'un coup, parce que, bon, c'est logique que... Mais la Torah, elle passe son temps à nous montrer des choses qui sont pas logiques.
Alors, j'ai pas compris la question.
Si tu me dis que c'est un principe clair, qu'un témoin, il peut pas changer d'avis, notamment sous la pression de celui sur qui il témoigne, et là, comme par hasard, on se dit, oui, mais il va pas mener contre lui, etc. Ça, là,
il a mal compris la
non,
question.
Non, j'ai expliqué. La question, le principe qu'on a de Kevin Cheigid, Chouven Rosa ou Magid, qu'une fois que tu as dit quelque chose, tu peux plus revenir,
c'est parce qu'on
se dit que peut-être qu'entre temps, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors, je fais un témoignage aujourd'hui, et demain je reviens, je témoigne le contraire. On dit, il y a quelqu'un qui lui a parlé entre temps. C'est pas normal. Ouais. Ça peut être un regard, je sais pas, quelqu'un qui l'a regardé, qui lui a fait comprendre que, attention à toi,
peur.
D'accord.
Il a fait peur, il y a une menace. Pardon.
Une menace, d'accord.
Mais c'est pas un principe. C'est
un principe sur la Torah, monsieur.
C'est un principe, mais c'est pas un principe qui s'applique à chaque fois, je veux dire.
C'est un principe qui s'applique toujours, parce que le Beit Din a l'obligation d'enquêter sur les témoins. Et ça, c'est louche, c'est pas normal. Quelqu'un qui change d'avis, un des témoins qui change d'avis, c'est pas normal. Il faut qu'il y ait une raison valable, d'accord, pourquoi on peut dire qu'en vérité, ils sont trompés. Et là, on a réussi à trouver une raison valable.
Alors,
de là, on apprend quelque chose, on apprend quelque chose d'intéressant, c'est que si les témoins arrivent, d'accord, si les témoins arrivent à démontrer une raison valable pourquoi ils se sont trompés, par exemple, ils vont dire, je sais pas, hier on était à une soirée, on était fatigué, on était sur le banc, sous l'émotion, on s'est pas rendu compte, etc.
Oui.
Donc là, ça pourrait y aller.
Bon, d'accord.
Vous trouvez une raison pourquoi ils sont plus trompés.
Il est valable, sauf raison...
Oui, d'accord. Donc ça, c'est la réponse de... Ok. Donc, qu'est-ce qu'on conclut avec cette Mishnah? D'accord, ça c'est une Mishnah Gemara, c'est très court, c'était très court cela, donc on passe à la Mishnah suivante. Qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que la halakha est que qu'est-ce qu'on proclame? On proclame le vêtement ou on proclame l'objet?
Le vêtement.
D'accord. Mais on a dit que le ramaï, d'accord. On a dit que si on a affaire à quelqu'un qui est malhonnête, même s'il a donné les simanim, on lui rend pas. Très bien. Maintenant, la Gemara nous a parlé d'un troisième cas. C'est quoi le troisième cas? C'est si j'ai affaire avec quelqu'un que je ne sais pas si c'est un truand ou pas. Par exemple, il y a eu beaucoup de truands dans le peuple juif, donc je me dis peut-être celui qui est en face de moi c'était quelqu'un de malhonnête, mais je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Alors là, on a une solution entre les deux. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu vas amener des témoins, d'accord, que tu n'es pas malhonnête, et on va te rendre l'objet. Chose qui est sûre qui n'était pas valable dans le cas où, si on sait que la personne est malhonnête. C'est sûr, ça.
Il y a un doute.
Donc en réalité, on a eu trois cas ici. D'accord? On a eu le cas d'une personne normale, avant qu'il y ait eu beaucoup de personnes malhonnêtes, dans le peuple juif. Le cas d'une personne qui est malhonnête, on sait qu'elle est malhonnête. Et le troisième cas, c'est quand il y a un doute.
Si la personne est malhonnête, mais c'est quand même son objet.
Ah ben, il ne fallait pas perdre un objet.
On l'a dit tout à l'heure.
On a dit que s'il a un signe pertinent, c'est bon.
S'il a un signe pertinent, c'est bon.
Oui, si c'est pertinent, on lui rend. Parce qu'un signe pertinent... Oui, il n'avait pas signe pertinent. Saisie pertinente, je peux rien faire.
C'est étonnant, parce que toi, tu aurais pu dire dans d'autres circonstances, oui, mais un âne, c'est sûr qu'on a un signe pertinent.
Non, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait dit, quand on avait parlé il y a deux mois, on avait dit que les signes d'un âne, des fois, les propriétaires ne vont pas reconnaître leur âne, mais ils vont reconnaître la selle. Tu comprends ? C'est délicat, ça. C'est pas la même chose.
Ça, c'est pas tellement... Parce que tu peux très bien prendre un âne et changer la selle.
Voilà. Ouais, ça, t'as raison. C'est ma question. C'est pour ça qu'on avait dit que... Tu te rappelles pas, la Gemara avait dit « Vechel tassé la chamoro », elle avait expliqué qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans l'âne, qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans etc., dans chaque animal. Et elle avait dit que l'âne, les gens, c'est pas forcément qu'ils se rappellent des synonymes de l'âne. Ils se rappellent, bon, aujourd'hui, ils sont numérotés, je crois, c'est ça ?
Tous les ânes, ils sont... Je connais rien en âne, mais...
Ah ouais, aujourd'hui, ils sont tatoués.
Allez, les chiens, les chats, je crois qu'ils sont tatoués.
Tout est tatoué aujourd'hui. La Mishnah suivante dit comme ça. D'accord ? Kol davar, ah ça c'est intéressant aussi. Kol davar sheose veochel. Bon, maintenant on va parler de quelque chose. Tu m'as dit que il faut rendre quelque chose à son propriétaire. Des fois, ça prend du temps de trouver le propriétaire. D'accord ? On a une petite introduction, on commence à la Mishnah. Des fois, ça prend du temps avant de trouver le propriétaire. D'accord ? Je trouve pas un propriétaire. Bon, alors si c'est une montre, il n'y a pas de problème, je la garde chez moi dans un tiroir, et bon, dès que je trouve le propriétaire, tant mieux. Mais imaginez-vous que je trouvais un animal. D'accord ? Je trouvais un animal. Ou bien j'ai trouvé quelque chose qui nécessite, qui nécessite un travail. Justement, attention, bon, j'ai pas encore commencé à Mishnah. Ou bien je trouve quelque chose, par exemple, je trouve un bouquet de fleurs. D'accord ? Je trouve toutes sortes de choses que j'ai besoin. Ça veut dire qu'il y a besoin d'un entretien. C'est ce que la Mishnah va appeler Osé, c'est ce que la Mishnah va appeler Ochel. D'accord ?
Ochel, d'accord.
Ça veut dire quelque chose qui mange.
Quelque chose qui
a besoin d'entretien, quelque chose qu'on a besoin de dépenser de l'argent pour ça. Alors moi je veux bien le rendre à son propriétaire, je veux bien le garder jusqu'à ce que le propriétaire arrive. Mais si ça va me coûter de l'argent,
pas
exagéré non plus. D'accord ? Alors c'est quoi le principe ? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On nous dit la Mishnah. D'accord ? Et là ça va très très loin ce principe-là, hein, parce que, je sais pas moi, il y a beaucoup de choses que quand on trouve, il y a besoin d'un entretien. Il y a besoin d'un entretien, ça peut être un entretien tous les jours, tous les mois, etc. Alors qu'est-ce que je fais ? Nous dit la Mishnah le principe suivant. Kol davar sheose veochel. Toute chose, d'accord ? Donc ça peut être un animal par exemple. Sheose veochel. Ça veut dire qu'il travaille, veochel et qu'il mange. Par exemple, un taureau. D'accord ? Un taureau, il peut travailler. C'est vrai que je dois lui donner à manger, mais il peut travailler. Donc je peux payer, je peux m'arranger pour payer sa nourriture avec son travail. Donc ça s'appelle osé veochel. Ça veut dire osé, ça veut dire qu'il fait. Veochel et il mange. En col d'avar chez osé veochel, toute chose. Ça peut être un animal, ça peut être des tas de choses, on peut s'imaginer ce qu'on veut. Chez osé veochel, ça veut dire qu'il produit et qu'il consomme. Yaase veochel. Dans ce cas-là, je vais produire et je vais consommer. Je fais les deux. Donc ça veut dire que si par exemple je dois louer l'animal, par exemple je dois louer l'animal pour qu'une autre personne va l'utiliser pour son champ, je loue l'animal. Et le propriétaire initial ne pourra pas me dire « Oui, mais monsieur, écoutez, c'est mon animal, je ne vous ai pas demandé, j'ai écouté. Moi, votre animal, je suis obligé de le louer parce qu'il faut bien payer sa nourriture. » Donc il n'y a pas de problème. Je peux le louer donc pour qu'on on va s'en servir, et avec cet argent-là, je vais lui donner à manger. D'accord. La Gemara posera la question après, elle dira, mais pourquoi c'est pas plus simple de le vendre ? D'accord ? De vendre l'animal. De vendre l'animal tel quel.
Et
oui, mais pourquoi c'est pas plus simple de vendre l'animal ? Parce que quand on va le faire travailler l'animal, il va se fatiguer. D'accord ? Peut-être qu'on va pas le faire travailler comme il faut, il va savoir ce qui va se passer. Donc, pourquoi c'est pas plus simple de vendre l'animal ? Comme dans d'autres cas. Dans d'autres cas, on verra qu'il faut vendre. Pourquoi je ne vends pas ? Parce que la Gemara nous dit qu'une personne, le propriétaire initial, on parle du principe que le propriétaire initial préfère retrouver son animal. Pourquoi ? Parce que son animal, il a ses habitudes. Il a des habitudes de travail, etc. Même si son animal sera un peu abîmé quand il va le retrouver, parce qu'il a travaillé, il a fait celui qu'il a trouvé, il a fait bosser, mais il préfère retrouver son animal. Mais, Vedavar, Shen, Osé, Veochel. Si on a trouvé un animal, par exemple, Shen, Osé, Veochel, donc un animal qui ne produit pas, mais qui consomme, par exemple, d'accord ? Un coq. Un coq, ça veut dire un coq consomme beaucoup plus que ce qu'il produit. Très bien. Dans ce cas-là, il m'achère. Dans ce cas-là, on le vend. Et au propriétaire initial, qu'est-ce que je rendrai ?
L'argent.
Chez Neymar, comme c'est écrit, d'où je sais qui me donne le droit de le vendre, chez Neymar, comme c'est écrit, va chez Voto l'eau. C'est à la fin du passage que je vous ai montré tout à l'heure à la gauche de la page. C'est écrit, va chez Voto l'eau et tu devras lui rendre. Bon, venez, on va reprendre le passage. La fin du pasouk. Vous vous rappelez où c'était le pasouk? Donc deux lignes avant la fin. Ve'aya imecha adderosh achicha oto. Tu devras garder l'objet jusqu'à ce que ton frère le réclame. Bon, alors on a expliqué que ça veut dire quoi que ton frère le réclame. Ça veut dire qu'en vérité, il faut t'assurer que c'est pas quelqu'un de malhonnête. Donc il faut vraiment qu'il le réclame, qu'il te montre ses vrais propriétaires. Après, on a la fin du pasouk qui te dit va chez Votolo et tu devras lui rendre. Ah, si, c'est en trop. Bien sûr, je devrais lui rendre. Je fais quoi alors? S'il me donne les simanim, bien sûr, je lui rends. Qu'est-ce que comprend la Mishnah? La Mishnah dit que va chez Votolo, ça veut dire quoi que tu devras lui rendre? Ça veut dire Ré'e et Arteshivenulo. Ça veut dire à toi d'analyser comment tu devras lui rendre. Vous comprenez ce que dit la Mishnah? Pourquoi on te dit que tu devras lui rendre? Bien sûr, je vais lui rendre. Je fais quoi avec? Alors, je vais sauter devant. Bien sûr, je lui rends. Ça veut dire quoi va chez Votolo? Ça veut dire qu'à toi de réfléchir quelle est la meilleure manière, comment tu devras lui rendre. Donc si par exemple, si c'est un animal qui produit plus qu'il coûte, si c'est un animal qui consomme plus qu'il produit, dans ce cas-là tu le vends. Alors il y a quand même les commentaires ont donné une règle, d'accord? Ont donné une règle, c'est que le propriétaire initial est prêt à perdre jusqu'à la moitié de la valeur de son animal pour retrouver son animal. Ça veut dire comme ça, c'est-à-dire que si par exemple il va louer son âne, je trouve par exemple un âne. Donc un âne il peut travailler, je vais le faire travailler. Et disons que bon, comme je ne sais pas le faire travailler, donc il va s'abîmer. D'accord, l'âne il va s'abîmer, il va tomber malade. Le propriétaire initial préfère qu'on fasse travailler son animal, et il est prêt à perdre jusqu'à la moitié de la valeur de son animal, quitte à retrouver son animal, jusqu'à la moitié. Donc dans le cas d'un coq, c'est pas ça. Dans le cas d'un coq, le coq il consomme beaucoup plus que ce qu'il produit. Il produit des œufs de temps en temps, mais c'est pas suffisant. Ça vaut rien. Une poule.
Oui. Ah, une poule, parce que le coq, c'est pas pareil que la poule.
Oui. Une poule. D'accord, une poule, elle consomme beaucoup plus que ce qu'elle produit. Donc c'est pas bon.
Je sais pas, ça.
D'accord. Bon, c'est comme ça. Donc, va acheter votre lot.
Tant que tu la manges pas, elle consomme.
Non, mais la poule, elle mange qu'à par terre, elle mange des vers de terre, elle mange...
Ah non, une bonne poule.
Dans ce cas-là, tu n'auras rien, tu auras une poule morte.
Ça s'appelle poulet bicyclette, en fait. Ils sont tellement maigres, quand tu les attrapes, ils courent comme ça, on les appelle poulets de bicyclette.
Il faut lui donner à manger.
Des grains de maïs, je crois, ou des trucs comme ça.
Je ne sais pas ce qu'il leur donne, mais bien sûr, il faut leur donner à manger. Il faut les gaver.
Je connais rien en poule, non.
Bon. Donc, Ré'e et Arteshivenulo, ça veut dire que il faut analyser, d'accord, Ré'e et Arteshivenulo, il faut analyser comment tu vas lui rendre. Alors, après, la Gemara ira encore plus loin que ça. La Gemara va dire que peut-être on devrait même réfléchir aux enfants. Parce que peut-être que le coq, c'est vrai que tu veux me dire qu'il produit pas assez, mais peut-être que ce coq-là, d'accord, cette poule, elle peut donner naissance à d'autres enfants. Donc peut-être qu'avec les enfants, on pourra récupérer la valeur. Ça, on verra dans la Gemara. Avec les poussins, est-ce qu'on considère les poussins? Parce que les poussins aussi, c'est un entretien. Il faut les entretenir, il faut les faire grandir, etc. Il faut les élever. Ça prend du temps, tout ça. Donc on va analyser tout ça jusqu'à combien je dois investir dans ce que j'ai trouvé. Est-ce qu'on pourrait trouver un exemple moderne de quelque chose qu'on trouve qui a besoin d'un entretien?
Une voiture?
Ouais, une voiture, ça se trouve pas.
Non, c'est vrai.
L'entretien par les animaux.
Hein? Est-ce qu'on a un exemple moderne?
Je sais pas, un objet de valeur qu'il faut entretenir.
Comme quoi?
Une montre. Une montre, il faut la nettoyer.
Ça tient pas, bon, je sais pas. Non.
Changer la piste si elle est défectueuse.
Ça, c'est pas un entretien qui va perdre la moitié de la valeur.
Non.
C'est pas évident.
Tous les animaux.
C'est pas évident. Et notamment, on verra dans la suite aussi que j'ai le droit de réclamer au propriétaire les frais que m'a coûté sa perte. Par exemple, si j'ai trouvé une montre Rolex et que j'ai dû la mettre dans un coffre-fort, j'ai le droit de réclamer le prix que ça m'a coûté pour la mettre à la banque. Alors, ça, j'ai le droit de réclamer. Mais jusqu'à la moitié de la valeur. Parce que si l'autre, il se met à payer plus que la valeur de son objet, ça c'est pas bon. Bon. Donc, Ré'e et Arteshivenulo, comme on a dit, ça veut dire que, quand la Torah nous dit, va chez Votolo, que tu devras lui rendre l'objet, ça veut dire que Ré'e et Arteshivenulo, à nous d'analyser, quelle est la meilleure manière de lui rendre. Donc on va, dans la Gemara, on verra des détails. On verra pas trop de détails. C'est-à-dire qu'après, il faudra utiliser sa logique. On va réfléchir, pour savoir quelle est la meilleure manière de lui rendre son objet.
D'accord, donc si ça dépasse la moitié de la valeur, je le vends.
On verra, c'est pas sûr ça. C'est pas sûr, parce que des fois il y a les poussins, etc. C'est pas sûr. Ouais. D'accord.
Et c'est pas évident parce que peut-être le gars il a même pas les moyens de donner la moyenne valeur de l'objet.
Ah oui, mais bon,
faut qu'il le vende.
Pas le choix.
Mais après on te met des barrières, non?
Par exemple,
si tu veux quelque chose, on te dit tu le gardes.
Et puis il y a aussi
voilà, on va en parler tout de suite.
Les variations de valeur.
Maillet Badami. Oui, bonne question, on verra ça aussi. Ça, on verra ça aussi, c'est dans la suite. Tout ça c'est dans la suite. Alors ça sera pas aujourd'hui ni la semaine prochaine, mais ça sera dans la suite. Il y avait un cas une fois, hein, et il y avait la Gemara racontera une histoire comme ça, je crois que c'était avec du blé. Il y a quelqu'un qui a trouvé du blé et il l'a gardé pendant donc quelques jours, quelques semaines, et le blé allait pourrir.
Ouais.
Donc il a vendu.
Il a vendu.
Et entre temps, le prix du blé a changé.
Ah oui.
Alors?
Et alors celui qui est le propriétaire initial qui a retrouvé, il a dit moi j'ai perdu un kilo de blé, je veux un kilo de blé. Alors c'est pas un kilo, c'est une grosse quantité. Alors on verra, la Gemara va donner les principes.
Avant tu avais dans le même ce qu'on appelle des titres anonymes. Ça aussi ça peut jouer comme dans le blé, il y a des titres.
Oui.
Il y a la valeur, tu les trouves, qu'est-ce que tu fais?
Non, là déjà on peut imaginer, ça veut dire on peut imaginer pour la nourriture.
Si c'est anonyme, justement, il n'y a pas de
la nourriture, quand je trouve la nourriture. Ouais. Ouais, bon, même si je trouve des plantes, bon, c'est de l'eau, c'est pas la fin du monde, c'est pas la moitié de la valeur. Non, honnêtement, j'ai pas trouvé d'exemple moderne. J'essaie de chercher, quand j'ai préparé la Gemara, j'ai pas trouvé d'exemple moderne.
Tu as des plantes qui valent très cher, tu t'en occupes.
Peut-être monsieur Bissuit nous a retrouvé un exemple.
Ouais, c'est certain, mais attention, les plantes. Hein.
Continue la Gemara, la Mishnah, pardon. Maillé Badamim. Bon, donc il y a certains cas, tu me dis, dans lesquels il faudra vendre. Qu'est-ce que je fais avec l'argent? D'accord. Est-ce que j'ai le droit de m'en servir? De m'en servir, bien sûr, c'est sûr que le jour où je trouve le propriétaire initial, je lui rends l'argent. D'accord. Mais est-ce que j'ai le droit de me servir de cet argent?
Ah.
Oui.
Et
ça veut dire que, en d'autres termes, est-ce qu'on considère que cet argent est placé chez moi, ou est-ce qu'on considère que cet argent est en dépôt chez moi? D'accord. Donc on a une marloquette. Maillé Badami. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon il dit, Ishtamesh Ben. Tu peux t'en servir de cet argent. Donc puisque tu peux te servir de cet argent, donc ça veut dire que c'est de l'argent qui n'est pas en dépôt chez toi, mais c'est de l'argent qui est placé chez toi. Les firars, c'est pour ça. Im avdu chayav bacharayutam. Si cet argent est perdu, ou volé par exemple, chayav bacharayutam, c'est sous ma responsabilité. Je dois rembourser. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent qui a été placé chez moi. Quand il y a quelqu'un qui place de l'argent chez moi et qu'on me le vole, et ben je rembourse parce que c'est de l'argent qui a été placé. Rabbi Akiva n'est pas d'accord, Rabbi Akiva en marloquette. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Et la halakha n'est pas comme lui. Il dit que l'oïch tamesh ben. Il dit qu'on n'a pas le droit de se servir de cet argent-là. Ça veut dire que l'argent est considéré comme de l'argent qui est en dépôt chez moi. Et c'est pour ça que les fichar, puisque j'en profite pas, im avdu, en chayav bacharayuta. Si l'argent a été perdu ou volé, je ne suis pas responsable. D'accord ? Je suis considéré comme un shomer chinam.
Voilà,
comme un shomer chinam, ça veut dire comme un gardien bénévole. Et un gardien bénévole, si l'argent a été perdu, un gardien bénévole, il fait ce qu'il peut. Mais s'il s'était perdu dans un déménagement, etc., il n'est pas obligé de rembourser. Un gardien bénévole n'est responsable que dans un cas dans lequel il y a ce qu'on appelle une pshia. Pshia, c'est-à-dire qu'il y a une faute. Par exemple, il laisse ouvert sa maison, ou je sais pas, là, dans ce cas-là, il devrait rembourser. Mais s'il n'y a pas de faute, si c'est un cas standard, puis il a perdu, les cas de la vie. Il a perdu, on lui a volé, etc. Puisque ce n'était pas... c'est de l'argent qui n'était pas placé chez lui, mais c'est de l'argent qui était en dépôt chez lui. Il n'est pas chayav bacharayutan, il n'a pas la responsabilité, donc il est remboursé.
Comme ça qu'il nous a fait avec le bœuf que tu trouves, il se casse un pied.
Ah oui, on va parler de tout ça. Ouais. C'est des cas intéressants, ça.
C'est des cas intéressants.
Ouais. Tu te rappelles l'histoire du poulet, toi.
Ouais. L'histoire du poulet. Ah oui, il est revenu, il a récupéré un.
Avec...
Il a récupéré plein de poulets, c'est ça?
Non, celui qui a gagné son argent sa maison à garder au voisin. Et les poulets, ils ont pourri, il a tout jeté.
Ah oui. Ouais.
Il a mis son argent
dans les poulets. Ah oui, c'est ça. Oui, d'accord, j'ai fait une histoire de la Gemara, tu voulais dire. D'accord. Bon. Ok, ouais, on va faire un peu de marre encore. La Gemara a dit comme ça. Il n'y a pas, s'il y avait les tosfas, je vous aurais fait, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de tosfas, bon, parce que c'est relativement simple. La semaine prochaine, je crois qu'on aura un peu de tosfas. Ouais, la semaine prochaine, ça va être très chaud. Je sais pas si on a... Ouais, la semaine prochaine. Enfin, la fin du cours, la semaine prochaine.
Tu veux pas qu'on garde ça pour la semaine prochaine, toi?
Non, on commence un peu.
Elle est assez longue, la Gemara, hein, la semaine prochaine.
La semaine prochaine, ça va être très chaud.
Non.
Ah ouais, des tosfas... béton armé.
En voiture, voilà.
C'est vrai? Il y a un Tosfot qui fait...
Pourquoi je dis ça?
Il fait...
Je vais aborder un nouveau sujet.
Du deuil d'affaires. Ouais, une cinquantaine de lignes. Ah ouais, c'est grand, hein. Bon, la Gemara dit comme ça. Oh, juste le début. La Gemara dit que... On a dit que toute chose, qui produit et qui consomme, d'accord? Dans ce cas-là, je vais le faire produire et je vais le faire, et par la production, je vais le faire consommer. Très bien. Bon. Alors, combien de temps ça va durer tout ça? Je vais le garder, mais combien de temps ça va durer? Je vais pas le garder à vie. Ça, c'est la question de M. Guéniche. D'accord? Alors, la Gemara pose la question et dit, Véléolam? Quoi? Ça veut dire, est-ce qu'il faut garder cet objet à vie? Parce que si tu me dis qu'un objet qui produit et qui consomme, alors encore, c'est un objet qui me dérange pas, comme une montre que je veux mettre dans un tiroir, ça me dérange pas de le garder à vie. Mais là, c'est une galère. C'est une charge en plus qu'on me rajoute. D'accord ? C'est une galère. Je vais devoir le faire produire. Je vais devoir m'assurer qu'il produit, etc. Alors, Léolam, est-ce qu'on dit qu'il faut faire ça à vie ? Et l'Agmara répond à la chose suivante. D'accord ? L'Agmara dit, Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Rav Nachman a dit au nom de Shmuel, Hatch Namasa Chodesh. Que quand on te dit que tu as l'obligation de produire pour consommer, c'est uniquement jusqu'à 12 mois.
Un an.
D'accord ? 12 mois. 12 mois, c'est pas un an.
C'est pas un an.
D'accord ? Donc, Hatch Namasa Chodesh jusqu'à 12 mois. Une fois que 12 mois sont passés, là, dans ce cas-là, j'ai le droit de le vendre. Là, je le garde. Hein. Au bout de 12 mois, je le vends.
12 mois, c'est ce qu'on dit, hein, 12 mois et un jour. Même là, la loi aujourd'hui, c'est
12 mois ?
Les objets volés, 12 mois et un jour.
Intéressant.
C'est-à-dire qu'ils disent un an et un jour.
Les
objets trouvés. C'est-à-dire quand tu les... Non, pardon. C'est un lapsus. Quelqu'un va les emmener. Il y a maintenant, aujourd'hui, il y a un organisme qui s'occupe de ça. C'est pareil de la caverne d'Ali Baba. Un an et un jour, c'est à toi. Tu trouves, par exemple, n'importe monnaie remplie.
Mais je trouve beaucoup de choses, hein. Enfin, je sais, ma soeur, une fois, par exemple, elle s'était faite voler son portefeuille. Il y avait dedans sa carte d'identité, enfin, sa carte... plein de trucs, quoi. Sa carte SNCF, tout ça. D'accord ? Et comment on appelle ça ? Bien sûr, elle n'a pas retrouvé le portefeuille. Et quelques jours plus tard, on a reçu une lettre du bureau des objets trouvés, c'est ça ? C'est ça, on l'appelle. Ils lui ont dit, on a trouvé votre carte. Ils n'ont pas trouvé l'argent, il y avait un peu d'argent dedans. Mais ils ont trouvé la carte d'identité, la carte SNCF, tout ça. Donc, venez les chercher sous, je sais pas, ils avaient donné quelques semaines, je sais pas combien de temps ils avaient donné. Donc, voilà.
Il y a beaucoup de gens qui mettent dans la boîte aux lettres.
Il y a un mariage.
Non,
c'est bon, ça ira, il va se brouiller. Bon. Alors, Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Rav Nachman a dit au nom de Shmuel, Hatch le Matzah Chodesh, on a l'obligation de le garder jusqu'à 12 mois. Et après, d'accord, donc pas de le garder, pardon, de le faire produire pour consommer. C'est-à-dire de faire ce jeu-là, ça va durer 12 mois. Au bout de 12 mois, qu'est-ce que je fais? Je le vends, et je garde l'argent, et que je rendrai au propriétaire. Bon. Donc...
Je garde l'argent ou je peux...
Ça, on a eu la marque dans la Gemara, dans la Mishnah.
Ouais.
D'accord. Bon. Tanyan Damiachi, on enseigne aussi une breta qui dit la chose suivante. Kol davar chez Ose Veochel, toute chose qui... Ose Veochel, ça veut dire qui produit et qui consomme, qui gonne para vachamor, comme une vache et un âne.
Pourquoi il a dit les deux? Il mord comme une vache.
Bon, c'est un exemple. Et un para vachamor, comme une vache et un âne. D'accord. Mais t'appelles, Hatchna Masa Chodesh, j'ai l'obligation de m'en occuper. Hatchna Masa Chodesh jusqu'à 12 mois. D'accord. Alors, en passant, petite parenthèse, il y a une machloquette, chez les Rishonim, entre le Rambam et le Tour, à partir de quand on compte les 12 mois? Est-ce qu'on compte les 12 mois à partir du moment où ça a commencé à produire? C'est-à-dire à partir du moment où je commence à le louer, etc. Ou est-ce qu'on compte les 12 mois à partir du moment où je l'ai trouvé? C'est pas forcément la même chose, parce que des fois, le temps que je m'organise, etc., ça peut prendre un ou deux mois. D'accord ? Donc c'est une machloquette. L'avis du Rambam, c'est qu'on compte à partir du moment où je l'ai trouvé. Et l'avis du Tour, c'est qu'on compte à partir du moment où j'ai commencé à le louer. Bon, parenthèse. Donc...
Je change tout parce que si c'est un truc saisonnier, par exemple, on a besoin de la vache l'été pour faire les moissons, enfin... Et pas l'hiver, parce que...
Ouais, bon, c'est 12 mois. Donc, elle dit comme ça, « Mais t'appelles Bahem, Hatchna Masa Chodesh. » Donc, toute chose qui produit et qui consomme, on s'en occupe, Hatchna Masa Chodesh jusqu'à 12 mois. « Mikan Ve'elach, à partir d'ici, Sam Demehem, ou Maniham. » D'accord ? À partir de ce moment-là, Sam Demehem, donc il va les convertir contre de l'argent, ou Maniham, et il garde cet argent chez lui. D'accord. Ou Maniram, qui va garder cet argent chez lui. D'accord. Il y a un avis qui... Alors, en vérité, on a une marque locale entre Rashi et Tosfot. D'accord. Rashi, il pense qu'on va vendre l'objet et on va garder l'objet. Tosfot, il a une manière un peu différente de voir les choses. Il dit que Oumaniram, ça voudrait dire que celui qui a trouvé l'objet peut racheter l'objet. Par exemple, si j'ai trouvé un âne, je peux me racheter l'objet. J'ai trouvé un âne, je vais le faire bosser pendant 12 mois. Ensuite, au bout de 12 mois, je garde, d'accord ? Au bout de 12 mois, je garde l'objet pour moi, je garde l'âne, et je vais moi mettre de l'argent, que je vais peut-être prendre plusieurs mois pour payer. D'accord, bon, ça c'est marqué de Rachid Tosfot, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que j'aurais
le
droit de racheter?
Je le racheterais parce que tu le connais.
Ouais, parce que je le connais, au final je me dis bon, pourquoi pas. Maintenant j'ai pas de quoi payer un âne. Alors je vais le payer en plus. Je me fais crédit, d'accord? En plusieurs mois, je peux. C'est vrai, d'après Tosfot, je peux.
Et je le paierai pas la. Je vais pas.
D'accord, en vérité, d'après Rachid ça marche pas. Pourquoi d'après Rachid ça marche pas? Voilà, parce que Rachid dit peut-être que la personne va se le vendre pas cher. Eh oui. Soit il dit qu'on ne craint pas à ça, puisque comme la personne est occupée par une mitzvah, hein, c'est pas Tosfot ici, hein, non, je vous l'aurais fait. Comme la personne est occupée par une mitzvah, donc on se dit certainement qu'il va faire la mitzvah jusqu'au bout, il va pas être malhonnête. Donc on a marqué de racheter Tosfot, c'est intéressant. D'accord ? Tosfot il part du principe que alors, quand on est occupé par une mitzvah, on ne craint pas à la malhonnêteté. Rachid dit que bon, quand il y a de l'argent en jeu, il faut faire attention.
Ouais. Hein? Non, c'est vrai que s'il y avait une mauvaise intention de départ,
il aurait gardé.
Parce que c'est la tête, la tuile, ah oui. Il le garde.
Bien sûr. Mais bon, des fois, ce qu'on peut se dire, c'est que des fois, on peut mal évaluer la valeur de l'objet.
On peut mal évaluer.
D'accord. Voilà. Agali Moussiachim, nous continuons la braïta, je finis avec ça. Si on a trouvé Agali Moussiachim, c'est-à-dire si on a trouvé donc un bœuf, par exemple, ou des choses comme ça, qui ne produisent pas assez, ça veut dire qu'ils produisent beaucoup moins que ce qu'ils consomment, dans ce cas-là, Metapel Bahem Shlosha Chodashim. Dans ce cas-là, je m'en occupe, ça c'est nouveau. On s'en occupe 3 mois. Mikan Ve'elar, Samet Demem ou Maniham. Je m'en occupe pendant 3 mois, puisqu'on considère que 3 mois, c'est la valeur de, comme on verra après, c'est l'équivalent de la moitié de la valeur de l'animal. D'accord ? C'est ça. Donc 3 mois, c'est l'équivalent de la moitié de la valeur. Donc jusqu'à 3 mois, je le garde. Et si au bout de 3 mois, je n'ai pas trouvé, Samet Demem ou Maniham, je vends l'objet.
D'accord ? C'est à toi, ça dit.
Non, je le vends. Je le vends et je garde l'argent. D'accord. Pour le rendre à son propriétaire.
D'accord.
Continue. Avazim est un égalim. Donc si c'est Avazim est un égalim, si j'ai trouvé des oies ou des coqs, d'accord ? Donc des oies ou des coqs, donc ils ne vont pas donner des œufs. Donc là, dans ce cas-là, puisqu'ils ne vont pas donner des œufs, donc très très rapidement, on arrive à la moitié de leur valeur. Metapel Bahem, Shloshimium, on s'en occupe que 30 jours. Mikan Velach, à partir d'ici, Samet Demem ou Manicha. Vous avez vu qu'on a appris quelque chose dans la Braïta. On a appris que le temps qu'on doit garder un objet, ça va dépendre de combien l'animal va produire. Donc si c'est un coq, par exemple, qui produit pas du tout, d'accord, que la seule chose qu'il va produire, c'est que bon, grâce à lui, la poule va avoir des enfants. Mais c'est pas grand chose. Donc on considère qu'au bout de 30 jours, il arrive à la moitié de sa valeur. Là, je le vends.
Le coq. Hein,
d'accord, le coq. Pas la poule. Ça, c'est Tarnégol. D'accord. Et des oies aussi, on parle pas des poules. Mais, si c'était Agalim ou Siachim, donc si c'était des veaux, un veau, on a dit, c'est jusqu'à 3 mois. Et les autres animaux qui produisent normalement, comme une vache et un âne, etc., c'est jusqu'à 12 mois. En vérité, on aurait pu aller à vie. D'accord. L'âne et la vache, c'est à vie qu'il va toujours, ça veut dire toujours, il va produire autant qu'il va consommer, ou même plus. D'accord. Mais pourquoi on s'arrête à 12 mois? Parce que c'est une galère. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'une mitzvah devienne une corvée pour moi. 12 mois, il ne faut pas exagérer.
Pourquoi 12 D'accord mois alors, si tu vas par là?
Bon, parce qu'une fois que la personne n'est pas venue au bout de 12 mois, comme il est allé pour les objets trouvés, on considère qu'on ne sait pas s'il viendra.
C'est quoi ce délai de 12 mois? Qu'est-ce que ça représente?
Non, il fallait trouver un délai, ils ont trouvé.
Tu me dirais non, pourquoi tu me dis 12 mois? Tu me dirais un cycle, enfin, je veux pas...
Non, 12 mois, c'est bon, je sais pas. Ça, c'est la même question, peut-être qu'on verra après. Ouais, j'ai pas vu. Dans la page qui suit, j'ai pas vu, mais peut-être qu'après, on verra.
Par exemple,
ok, on va s'arrêter ici.
Avlout, etc., il y a des temps bien précis. Il y a aussi un an, il y a aussi des fois, il y a un mois, etc., ça correspond à des choses.
Ouais, de ce que je pense, d'accord, je pense que 12 mois, c'est le temps que
une personne
normale retrouve un objet.
Où elle est plus envie de...
On a vu, je sais pas si tu te rappelles, avant les vacances.
Où elle fait son deuil.
Avant les vacances, on avait vu 3 fêtes. On considère que c'est le temps qu'une personne va retrouver son objet. Au bout de, après 12 mois, après 12 mois, on va le garder pour espérer du rendre, mais bon.
Oui, mais ça correspond au deuil.
Deuil.
Ouais, au bout de 12 mois, on dit que...
On oublie.
Ouais,
peut-être que l'esprit...
Non, on avait, ouais, pourquoi mais... tu compliques comme ça? On avait vu dans la Mishnah d'avant, ça va pas avec les trois fêtes. On avait dit que la rotation pour une paire, c'était, il fallait passer par trois fêtes.
Voilà.
Trois fêtes?
Là, c'est pas trois fêtes, là.
Si.
Ah, si. Si on prend les trois fêtes, minatoires.
La poule, c'est maximum 12 mois. Du gros bétail, ils disent.
Oui, ça c'est après, ça. Je me suis arrêté ici. D'accord, ça c'est après, c'est la semaine prochaine.
C'est pas 12 mois, là.
C'est la semaine prochaine, et je vous préviens, c'est pas simple, parce que là, la semaine prochaine, on va développer surtout ce que la Gemara a dit, ce que la Mishnah a dit, pardon, la marque entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Est-ce qu'on peut se servir de l'argent ou pas? Est-ce qu'on considère que l'argent est en dépôt, ou est-ce qu'on considère que l'argent est en...
C'est
compliqué.
Si tu perds, si tu perds en bourse, t'as tout perdu.
Grand marque, ça veut dire, est-ce qu'on considère que j'ai emprunté l'argent? Ouais. Ou est-ce qu'on considère que je suis un gardien bénévole de l'argent?
Pourquoi tu empruntes l'argent si tu trouves un objet?
Bon, quel statut juridique j'ai? C'est la question.
C'est bizarre de dire... Si il a des raisons.
Si tu veux que ce soit bizarre, je vais venir la semaine prochaine.
Ben voilà.